Robert Blondin ici. Bienvenue à l'aventure.
Aujourd'hui, l'aventure de Ingrid Catalan. On verra pourquoi elle s'appelle Ingrid Catalan. Catalan, on s'en doute un peu. Elle est chilienne d'origine et maintenant tout à fait québécoise, canadienne, que j'ai rencontrée au hasard de la vie. On y reviendra plus tard là-dessus. Vous êtes arrivée, Ingrid, très jeune au Canada?
Oui, en fait, c'était un 23 décembre 1976.
Bien, vous aviez quel âge? Là? Moi, j'ai 76, je ne sais pas votre âge. Moi.
À ce moment-là, j'avais 6 ans. Alors, c'est ça. Ça fait que 40 quelques années que je suis ici.
On va revenir sur vos origines et comment vous avez vécu cette première enfance. Et vous avez exercé des métiers. J'aimerais savoir quelle sorte de métier vous êtes.
Oui.
Fait l'objet de vos activités.
J'ai fait un petit peu de tout, mais je me suis surtout concentrée du côté science. J'ai travaillé pour des hôpitaux et aussi pour des compagnies qui font des recherches pour les médicaments.
Mais vous aviez une formation en sciences?
Oui, en fait, technicienne de laboratoire médical.
Ah, d'accord. Oui. Et vous avez évolué vers d'autres métiers à partir de ça?
À part ça, oui. Après ça, j'ai travaillé un petit peu avec la Ville de Montréal en microbiologie pour le département des eaux et des aliments. J'ai travaillé aux États-Unis dans deux hôpitaux. J'ai voyagé un petit peu.
Et pourquoi un jour vous avez laissé ce métier de laborantine?
Oui. Bon, après avoir vécu... Je suis retournée au Chili. Je trouvais aucun emploi au Québec. Et ma mère me dit, ben, retourne au Chili, peut-être tu auras une meilleure chance. Ça n'a pas été le cas, car, au Chili ou peut-être dans d'autres pays, c'est qui tu connais dans la compagnie. Et vu que je ne connaissais personne, j'ai jamais eu un emploi. Alors, j'ai dû commencer à enseigner l'anglais dans des mines de cuivre au Chili.
Oh!
Oui.
C'est pas une main stage, ça.
Non. Alors, c'est ça. J'ai fait des gros voyages dans le nord du Chili. Je faisais ce qu'on appelle des 10 par 12.
Donc,
10 jours de travail et 2 jours de congé dans une mine de cuivre dans le nord du Chili, 51% propriété américaine et 49% chilienne. Donc, c'est sûr que les ingénieurs avaient besoin d'apprendre l'anglais.
Mais il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est un milieu très difficile de travail, non?
Je dirais que c'est 95% hommes. Oui, on était peut-être une vingtaine de femmes.
Il n'y a pas eu des mouvements sociaux dans ce coin-là, à un moment donné, qui étaient importants?
Oui. Oui, bien sûr, dans les années de Pinochet. Oui, beaucoup. Mais moi, j'ai retourné en 97 à peu près. 1997 jusqu'à 99.
Mais ça doit pas être facile de vivre dans un milieu minier, majorité d'hommes, enseigner l'anglais.
Oui, c'est ça, surtout que dans ce temps-là, j'avais 27 ans, j'étais, pas mariée. Mais les hommes, de nature, ont une tendance à vouloir...
apprendre l'anglais.
et plus. Oui. Et plus. Ouais. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, j'ai trouvé ça désagréable parce que j'avais grandi au Canada où j'ai jamais senti qu'un homme Quand on marche sur les rues à Montréal, on ne regarde presque pas, on ne nous siffle pas.
En tout cas, discrètement.
Mais oui, mais au Chili, c'est...
C'est le machisme
c'est
latin.
C'est ça. Je marchais dans les rues avec maman et puis les hommes disaient à maman « belle-mère ».
Oh, déjà.
Alors, c'est ça. J'étais pas habituée à cette façon d'agir des hommes.
Vous avez fait ça combien de temps, enseigner dans un tel milieu?
À peu près un an et demi, oui.
Quand vous êtes arrivé au Canada, vous aviez 6 ans, l'époque Pinochet était terminée à ce moment-là?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait?
Non. En fait, ça lui a pris, quoi, 16 ans?
Ouais.
Avant qu'il...
Est-ce que votre départ du Chili était lié à la présence de Pinochet au pouvoir?
Exactement. On a dû quitter.
Il fallait fuir ou émigrer, là?
C'est... mon papa avait voyagé un petit peu et sur son passeport, c'est évident qu'il avait déjà visité la Russie. Et cela n'était pas bon pour nous.
C'est pas une étampe intéressante dans le passeport pour ces gens-là. Et vous avez dû quitter...
Oui, on n'a pas quitté tout de suite après le coup, en 73. Mais bon, mes parents se sont rendus compte que c'était pas agréable pour que nous trois, on est trois enfants, qu'on grandisse dans cette ambiance.
Parce que quand on est dans l'opposition d'un tel régime, l'emploi et tout ce qu'on voudra est très difficile.
Exactement. Mes parents me racontent plusieurs histoires qu'ils ont vécues pendant le coup et c'était... épeurant, quoi. C'était violent, c'était... bon, ils ne savaient plus quoi faire exactement. Et vu que nous, on était petits encore, ils se demandaient quelle sorte de futur on aurait si on restait. Alors, il fallait partir.
Ça doit être difficile à vivre. Vous avez vu... Vous étiez toute jeune, on s'adapte plus facilement, j'imagine. Mais vous avez vu la difficulté qu'ont eu vos parents à s'adapter ici, j'imagine?
Oui. Donc, si moi j'avais 6, mes parents avaient 47 ans. Et je me souviens que ma maman et ma sœur, pendant, je pense, facilement 6 mois, après qu'on est arrivé ici, n'arrêtaient pas de pleurer. Je trouvais ça... c'était devenu commun de les voir pleurer après que je rentrais de l'école.
Et vous saviez, vous compreniez pourquoi?
Oui et non. Moi, étant toute petite, c'est sûr, ils me cachaient beaucoup de choses. Moi, il fallait que j'aille, fallait aller à l'école et puis faire des amis. Pour moi, c'était un autre monde. Moi, c'était bon, j'ai plus de grand-maman, j'ai plus de cousins, plus d'oncles, j'ai personne. Et personne ne me comprend parce que je ne parle pas le français.
Ben, il faut apprendre le français, là. C'est pas évident non plus.
Exact.
Là.
Et malheureusement, dans ces années-là, il n'y avait pas de classe d'accueil. Alors, les professeurs n'étaient pas, je dirais, patients avec les nouveaux immigrants. Alors,
à ce point-là, ouais.
Oui. Je veux pas dire qu'elle était méchante, mais peut-être elle n'avait pas la patience. Ou peut-être elle n'aimait pas les immigrants, je sais pas. Mais j'haïssais l'école. Mon prof faisait que me crier. Vu que je comprenais rien, ben, elle se fâchait. Alors, elle me criait. Alors, ça a fait un bloc. J'ai pas pu apprendre le français. Ça m'a pris un an.
Ben déjà, c'est apprendre en un an, c'est bien. Mais c'est long à cet âge-là d'attendre un an pour pouvoir avoir des amis, aller à l'école comme tout le monde. C'est long.
Oui. Et le choc d'avoir quitté le Chili au mois de décembre, c'était l'été. Et on arrive ici, c'est l'hiver.
Que vous connaissiez quand même au Chili?
Oh non, on n'a pas d'hiver, nous, okay. On n'a pas de neige.
Bon, sauf en très haute montagne.
Oui, là. Oui, alors. Oui, c'était.
C'est beaucoup de choc.
C'est beaucoup de choc. Et que, bon, on voit maman et ma sœur pleurer. Papa, je le voyais quasiment pas parce qu'il y avait trois emplois pour nous faire vivre. Alors, on restait dans un appartement, ce qu'on appelle aujourd'hui un et demi. On était 5.
Oui, oui.
Alors, oui, c'était. Pas facile.
Et votre père avait des emplois ici qui correspondaient à ses compétences, quand même?
Non, pas nécessairement. En fait, il est venu 6 mois avant nous quatre. Donc, il a ramassé assez d'argent pour nous envoyer des billets d'avion. Il fallait acheter des billets d'avion comment on dit ça, pas d'une seule voix. Il fallait que ça soit aller-retour pour que le pays n'ait pas de doute.
Et un retour que vous n'alliez pas utiliser.
Exact. C'est alors, dur. Oui, papa travaillait beaucoup, je le voyais quasiment pas.
Qu'est-ce qu'il faisait comme travail?
Il a commencé à travailler par... c'était la compagnie... Oh mon Dieu. Là, j'arrive plus à me souvenir.
Mais quel genre de travail?
C'était manuel.
OK. Mais il faisait pas ça au Chili?
Non, il travaillait aux douanes maritimes.
D'accord.
Oui, ma maman aussi, elle travaillait dans le secteur maritime avec des Allemands. On a beaucoup d'Allemands au Chili. Oui. Mais par après, il a travaillé pour Bombardier, pour faire des pièces d'avion, et, jusqu'à sa retraite.
Est-ce que vous vous souvenez, même si vous étiez très jeune, précisément de cette arrivée, cette journée d'arrivée ici?
Ça faisait 6 mois que je n'avais pas vu papa. Et je disais à maman tout le temps, « Papa nous a quittés. Il ne revient plus, il nous a quittés, il ne m'aime pas. » Et puis, quand on a monté l'avion, je ne savais pas c'était quoi un avion. Et puis, on était maman, ma sœur qui est l'aînée, ensuite mon frère qui est le deuxième et moi la dernière. Ce que je me souviens du voyage, c'est que tout au long, j'ai eu mal aux oreilles. Et j'arrêtais pas de pleurer. Et puis bon, une fois qu'on a atterri à Dorval, j'ai vu papa.
Et ça a polarisé toute l'attention, j'imagine. Parce que c'était ça qui vous importait. Le pays où on arrive, pour le moment, vous n'êtes pas consciente de ça plus qu'il faut. Là.
Personnellement, je savais pas où j'allais. Ce que je comprenais, c'est que on allait se rencontrer avec papa.
C'est ça qui comptait, finalement. Et une fois que vous avez appris le français, ça s'est passé comment, vos contacts avec les Montréalais, les Québécois?
Mon frère, qui, dans ce temps-là, avait 16 ans, donc 10 ans de plus que moi, il a eu de la difficulté aussi parce que, bon... pas de classe d'accueil, s'intégrer dans un milieu secondaire, adolescent, garçon.
Ouais.
Ça n'a pas été très, très facile. Il m'a raconté plein d'histoires par après. Ma sœur, elle avait 21 ans, donc 14 ans de plus que moi. Elle n'arrêtait pas de pleurer parce que, bon, son copain l'a laissé au Chili. Je veux retourner, je l'aime. Et maman, bon, c'est parce qu'on est les premiers et les seuls à avoir quitté de la famille. Alors, on a laissé tout le monde au Chili. Et moi, de mon côté, essayer de s'intégrer et d'apprendre le plus vite le français parce que ni maman, ni personne, en fait, parlait le français. Alors, fallait essayer de traduire un petit peu. Quand on allait pour les entrevues d'immigration, quand on allait voir les médecins. On a eu beaucoup d'aide des églises concernant, par exemple, des vêtements, des bottes. Pour l'hiver, on n'avait rien.
On part de zéro. Hein.
En fait, dans ces années-là, il n'y avait rien pour guider ni aider les immigrants. Pas comme aujourd'hui.
Ouais.
Aujourd'hui, ils sont gâtés, mais...
Ça a pris combien de temps avant de vous intégrer suffisamment pour que vos parents, votre sœur, votre frère puissent vraiment s'intégrer?
Je pense que après 2 ans, je peux vous dire que j'ai commencé à avoir de beaux souvenirs. Dans le sens que, bon, ma sœur s'était mariée.
Ah, avec un Québécois?
Non. Avec le copain qu'elle avait au Chili.
Ah, qui l'a rejoint. Venu. Ah, bon, formidable.
Oui.
Ben oui.
Alors, elle était plus contente. Ma maman avait déjà été au Chili. Aller voir sa maman et ses sœurs et son frère. Alors, tout le monde avait un emploi. Alors,
donc, pas de problème d'immigration?
Non.
Administratif?
Non. Ils ont vu que c'était dû à Pinochet.
Oui. Qu'est-ce que vous avez commencé quand tout ça a été beaucoup mieux, vous aviez des amis, etc.? Qu'est-ce qui a commencé à vous plaire au Québec, s'il y a quelque chose qui vous a plu, je ne sais pas, là?
Ah, comme enfant, ben la neige, bien sûr. Et le fait que c'est incroyable, on avait les quatre saisons. Et ça, c'était nouveau pour moi, pour mes parents, bien sûr, aussi. Le fait que j'ai pu apprendre l'anglais, le français, je parlais trois langues.
Ça, vous avez fait ça en un an ou deux, l'anglais, le français, en plus de l'espagnol
ben,
d'origine?
J'ai appris l'anglais dans les rues. Avec mes...
Le français à l'école, puis l'anglais dans les rues?
Oui, exactement. On habitait dans un secteur juif, très anglophone. Alors, mes amis dans les rues, c'était toutes des Anglais, des anglophones. Alors, c'est ça.
C'est ça, c'est formidable. À cet âge-là, de pouvoir apprendre des langues de cette façon-là, ça, c'est extraordinaire.
C'est ce qui fait que quand on est jeune, c'est facile. Mais pour mes parents, ils ont eu des cours de français. Vu que l'espagnol ressemble quelque peu au français, ça leur a aidé beaucoup. Ils ont appris beaucoup sur la culture, sur les danses, le folklore. Alors ça, ils étaient contents. Ils ont repéré beaucoup d'autres amis chiliens ici, qui connaissaient déjà au Chili. Alors toutes les fins de semaine, c'était la rencontre de la communauté chilienne. Et de là, mon père a dit, ben, regardez, on devrait faire quelque chose. On devrait envoyer de l'aide aux orphelins au Chili, de notre ville. Et c'est là qu'est née, en fait, l'idée de créer un petit club et des soirées qu'on pouvait... des soirées pour de la danse et des soupers dansants, quoi, et puis collecter des sous et envoyer ça aux
Donc,
orphelins.
Donc, vous vous adaptez ici, c'est déjà pas facile, mais vous êtes déjà préoccupé d'aider les gens que vous avez laissés au Pérou.
C'est ça, on sait qu'il y a des gens au Chili, beaucoup d'orphelins à cause du coup d'État, qui ont plus de personnes et qui sont dans des... sont mal pris. Alors, il fallait...
Votre famille, Ingrid Catalan. Pourquoi vous vous appelez Ingrid?
Ingrid? Ah, j'aime bien mon nom, car au moins, c'est pas le nom que, quand je suis née, maman a regardé le calendrier catholique pour choisir mon nom. elle aimait beaucoup Ingrid Bergman, l'actrice.
Oui.
Et c'est pour cela que... Je suis Ingrid.
Et catalan, évidemment, ça c'est...
Le nom de famille, oui.
Vous êtes ici et vous parliez, avant la pause, de votre père qui se préoccupe, et avec entraînant sa famille avec lui, d'aider des gens là-bas au Chili,
oui.
Tout en faisant des efforts de s'incruster ici, de s'adapter. Vous faites quoi exactement comme activité pour envoyer de l'argent au Chili?
Ben, lui, il a commencé... Il était très bon avec ses mains. Il pouvait réparer n'importe quoi, créer n'importe quoi. Très habile. Et un jour, il a décidé de faire une poupée. Une poupée géante, taille humaine. Et il s'est dit, tu sais quoi? Toi et moi, on va faire rire les gens. Et puis, ça lui a pris, quoi, une semaine. J'ai mis les vêtements de ma mère sur cette poupée, une perruque et tout. Et il a attaché les pieds de la poupée à ses souliers, pendant que lui, il était habillé en clown. Et tous les dimanches, quand on allait à l'église, on faisait rire les gens.
L'Église dans cet accoutrement?
Dans l'Église catholique où on allait, latino, hispano-américaine. Oui, et puis il dansait...
Un clown à la messe, là?
Ben non, non, après la messe, bien sûr.
Après la messe,
okay, oui, au sous-sol, le moment du café.
Ah oui, OK.
Et d'accord. Puis c'est ça, il dansait une couple de chansons avec cette poupée. Il faisait rire les enfants et moi, j'étais habillée comme clown. Et on a commencé comme ça.
Et ça s'est poursuivi, ça s'est
ça
développé?
Ça s'est poursuivi. Après, on a créé le mini-cirque. On était plusieurs. On a passé à la TV pour faire rire les enfants latinos, à la télévision latino-américaine au Québec.
Donc, vous êtes très, très polarisé par la diaspora latino ici à Montréal.
Oui, on a même fait des... comment on appelle? Désolée, des fois j'oublie mes mots en français. On a été... on a participé dans un défilé où mon papa a créé, comment on appelle encore, float.
Oui, un char allégorique. Là.
Un char allégorique, ah ouais. Merci. Et c'était le ministère qui, on s'était tout intégré. On a fait partie d'un défilé, pas trop loin d'ici. C'était Lacolle, je pense. Et on a fait ça plusieurs fois. Papa aimait danser.
Mais toujours dans le milieu latino?
Oui, et avec des Québécois. Oui, toujours. Les gens qui voulaient se joindre à nous, bienvenue toujours.
Dans quelle mesure vous vous êtes intégré comme famille ou personnellement dans la culture québécoise, dans la culture vraiment de souche, si on veut, québécoise?
Je pense que vu qu'on a toujours été entourés par des gens québécois, ils étaient toujours là. Et c'est aussi notre façon de pouvoir pratiquer le français, d'améliorer le français, de comprendre plus leur façon de vivre.
Quelles ont été les difficultés que vous avez dû surmonter pour bien établir la communication avec les Québécois, là, bien franchement? Là?
Papa a eu un petit peu plus de difficultés. Surtout à Bombardier. Il a toujours eu de la difficulté avec son français. Et puis, malheureusement, le foreman ne l'aimait pas. Je pense qu'il était peut-être un petit peu raciste ou je ne sais pas. Et puis, bon, il a trouvé ça difficile, mais il n'a jamais arrêté de travailler. Il savait qu'il fallait...
Est-ce que vous aviez des amis dans des familles québécoises?
Oui.
Des échanges avec des familles québécoises?
Oui, oui, on a toujours eu, même le camping. On allait faire du camping avec un groupe chilien, mais on partageait toujours avec nos voisins québécois qui venaient danser, manger, tout ça, avec nous, oui.
Et qu'est-ce qui étaient les principales difficultés à vous intégrer au milieu québécois? Est-ce qu'il y avait des aspects qui étaient plus difficiles à surmonter?
Personnellement, moi... Non. Mes parents, probablement. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'entendre les autres enfants, mes amis parler de ma grand-mère, ma tante, ma cousine, mais moi, j'en avais pas. J'ai trouvé ce trou, ce vide très, très grand pendant beaucoup, beaucoup d'années.
Et quel champ d'activité ou de loisirs ou d'art ou de vie culturelle vous liait le plus, qui vous aidait à faire le lien avec les Québécois?
Je pense que c'était le fait d'être à l'extérieur de la maison l'été, surtout les parcs. C'est là qu'on voit les autres gens, les gens qui se promènent. Moi, j'ai toujours voulu un petit chien parce que je voyais les gens se promener avec un petit chien. Mais c'est des choses qu'on remarque et puis on se dit « Ah, ben ça, c'est la vie ici, alors j'aimerais bien faire la même chose. »
Est-ce que vous regardiez la télévision francophone ou si vous étiez branché sur un canal chilien?
Au début, on n'avait pas d'accès, en fait. Il n'y avait pas vraiment rien de chilien. Je pense que ça, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Il y avait quelque chose les samedis soir ou après-midi, latino, mais c'était, je pense, c'était plus de nouvelles que d'autres choses. Mais généralement, moi, en arrivant de l'école, c'était passe-partout. c'était toujours des émissions, les chansonniers québécois, tout ça. Je chantais en français tout le temps.
Et en anglais?
Oh, bien sûr. Bien sûr, la radio, Michael Jackson, de ce temps-là. Oui. Tellement le français et l'anglais que j'ai commencé à perdre des mots en espagnol. Et alors, quand on est retourné au Chili, quand j'avais 10 ans, je disais à maman, « Maman, comment on dit ça en espagnol? » Parce que c'est ça, je parlais de moins en moins.
Est-ce que vous fréquentez encore le milieu hispanophone?
Quasiment plus.
Ah ouais.
Quasiment plus. On est trop occupés. Je préfère donner mon temps à ma sœur et sa famille ou mon frère et sa famille. Car on travaille beaucoup.
Ouais, qui ne travaille pas de nos jours,
Exact,
bon,
alors c'est
et très
ça.
fort. Dites-moi, est-ce qu'il y a votre vie familiale, quelle influence le français a? Vos enfants sont complètement québécois, finalement.
Je n'ai pas d'enfants, mais
Ah, je
les
pensais que vous
enfants.
aviez. Excusez-moi.
Ah, il n'y a pas de problème. Les enfants, en fait, mes neveux et nièces de mon frère et de ma sœur sont trilingues. Ils ont été primaire et secondaire en français et par la suite un ou deux en anglais. Le reste sont restés dans des universités francophones.
Vous êtes adolescente au Québec, vous êtes arrivée à 6 ans, on arrive à 13, 14, 15 ans. Là, vous découvrez les autres, hein, les garçons, bon, tout ça. Ça se passe comment pour vous?
Bon, mes parents, étant nés en 1929 dans une petite ville, ils gardent toujours des vieilles traditions, des vieilles façons de penser. Alors non, tu ne sors pas. Tu restes à la maison. Pourquoi mes amis vont sortir danser? Non, parce que toi, c'est pas une bonne façon d'agir. Les filles ne sortent pas.
Ouais, j'imagine,
Alors oui, j'ai vécu des moments un petit peu
ouais.
frustrants.
Un peu révolté aussi, non?
Non, j'ai jamais révolté.
Ah non?
Non, parce que j'ai toujours vu que mes parents se sont acharnés, se sont sacrifiés pour nous. Alors je voulais pas leur
Et
causer
vous
des
étiez très
troubles.
consciente
Trop,
de
trop,
ça.
trop
Trop, hein?
consciente, oui.
Ah oui? Vous auriez dû peut-être prendre un petit peu plus de place, pensez-vous?
Je pense que j'ai grandi trop vite. Ouais.
À cause du déplacement?
Alors, il fallait faciliter les choses au lieu de les compliquer. Parce
Mais
que, vous voyez, ma sœur,
au
elle...
détriment d'un épanouissement personnel d'adolescente.
Oui. J'ai vu mes parents souffrir trop pour demander.
Alors, à quel moment vous vous êtes, disons, affranchi un peu de ce devoir envers les parents pour davantage vivre votre propre
J'avais
vie?
24 ans.
Déjà, quand même.
J'avais 24 ans et un jour j'ai dit à ma maman, tu sais quoi, maman? Je sais pas parce que je ne t'aime pas, mais je ne veux plus aller à l'église tous les dimanches.
Ça commence par ça, ouais.
Oui, parce que là, bon, on commençait à découvrir que les prêtres, les curés faisaient des choses avec les enfants. Et là, j'ai commencé à perdre le respect de ce représentant. Et donc, j'ai dit à maman, tu sais, non. Et quand je lui ai expliqué ma raison, elle a trouvé que... Elle m'a dit, d'où tu sors ça? De quoi tu parles? Alors j'ai dit, regarde, je vais aller, je continue à être croyante, c'est sûr, mais aller tous les dimanches, regarder ce bonhomme me dire quoi faire, quand probablement lui, il est très conscient de ses collègues qui font plein de choses. Non, j'ai dit, pas vraiment.
Et votre émancipation va
Par la
aussi du côté des
suite,
compagnons ou vraiment vous détacher des parents, j'imagine,
non,
non?
jamais vraiment détachée. Ça a commencé par le côté religieux et par après, je pense que quand j'ai vraiment commencé à vivre seule, j'avais probablement 30 ans.
Oh, quand même.
Oui. Je voulais quitter, mais bon, mes parents, ils ont 41 ans de plus que moi. Alors, si j'avais 10, ils avaient 51. Si j'avais 20, ils avaient 61. Alors, quand j'ai vraiment connu mes parents, ils étaient déjà grands-parents. Mon neveu est né quand j'avais 9 ans. Alors, j'ai toujours eu, pas pitié, mais j'ai toujours vu que il fallait que je prenne soin de maman et papa. Alors, c'est pour ça que j'ai grandi vite.
À quel moment vous êtes parti, parce que vous m'aviez conté que vous êtes parti au loin, à un moment donné, loin de papa et maman, là?
Oui. Ben, en fait, je me suis mariée.
Ici?
Oui, à quelqu'un de latino. Ça s'est bien commencé, tout s'est bien, en fait, de beaux débuts, comme tout rêve. Et par la suite, bon, une dégradation désagréable, car l'alcool et les drogues ont fait partie de la vie de cet homme-là, de plus en plus. Et l'agression psychologique, émotionnelle, et la dernière, c'était physique, et là, j'ai quitté. J'ai quand même resté pendant 20 ans avec cet homme-là, car nos croyances latino, ben, tu te divorces pas parce que tu continues à essayer, tu continues.
Vous l'avez
à
connu
travailler.
Au début de trentaine?
Non, je l'ai connu quand j'avais 18 ans.
Mais vous l'avez marié plus tard?
Je me suis mariée avec lui quand j'avais 27 ans, mais je restais encore avec maman et papa.
Mais là, cette relation a duré 20 ans, ça vous mène quoi, une cinquantaine d'années? Quand même pas, vous...
Je l'ai quitté quand j'ai eu 40, finalement. Bon.
Et c'est à ce moment-là que vous partez au loin?
Et c'est...
J'ai hâte de savoir comment vous partez au loin, parce que vous êtes très attaché aux traditions, aux parents.
Oui.
Vous faites comme il faut les choses. Et un jour, vous brisez quelque chose quand vous partez.
C'est ça. Alors, la dépression avec cet homme-là, j'ai passé par plusieurs hôpitaux. J'ai essayé de m'enlever la vie plusieurs fois. Cet homme-là m'a détruit complètement.
Ah bon?
Oui. Et vu que chaque fois que j'ai essayé d'enlever ma vie, ça n'a jamais fonctionné, je me suis dit, bon, Dieu doit avoir une autre histoire pour moi. Et puis... un jour, je me suis dit, alors je vais quitter, je m'en vais en Chine, Tibet, Inde, je vais aller voyager toute seule. J'ai préparé tout mon voyage d'avance et j'ai dit à mon ex-mari, je te quitte. Pas vraiment, je te quitte. En fait, j'ai dit, je quitte, je pars en voyage, je reviens dans 2 mois. Mais dans ma tête, c'était clair que je ne revenais plus. Et que j'étais pour lui donner cette nouvelle-là...
Autant que j'ai vu.
Hors du pays, parce que... il était devenu très agressif physiquement. Alors j'avais des craintes pour moi.
Vous avez fui, finalement. Il fallait fuir, dans
oui,
un sens.
Oui, d'une façon silencieuse. Et quand j'ai dit à mes parents, bah, regardez, je vais voyager, je m'en vais toute seule, j'ai 40 ans. Non, mais tu peux pas. C'est une femme, tu peux pas voyager toute seule. C'est dangereux. Je dis, ben, c'est trop tard, les billets sont payés, je pars après-demain. C'est fait. Et j'ai quitté.
Thank you. Ça y est, vous êtes parti, Ingrid Catalan, et vous vous retrouvez en Orient. Continuons un peu. Alors là, votre vie change complètement. Début quarantaine, et
oui.
Là, tout chamboule.
Exact. Alors, j'arrive à Beijing. Personne ne parle anglais. J'ai trouvé ça difficile. J'ai passé à peu près 10 jours, car c'était difficile de me repérer et de trouver quelqu'un avec qui parler parce que, bon, il y avait très peu de personnes qui parlaient l'anglais. J'ai trouvé une qui a parlé le français pendant un de mes voyages en train. J'ai trouvé ça très, très surprenant. Alors, après 10 jours, j'ai quitté et je suis partie en Inde. Ça, c'est un autre monde. Ça se compare à rien.
À rien.
À rien. À rien. À rien que j'ai vu, connu. Et tout le monde parle anglais.
Ouais.
Mais femme seule en Inde, pas une très bonne idée non plus. Alors, je me suis sentie... j'ai dû décider vite, vite où j'allais, car les hommes, c'était comme que j'étais du miel, et puis c'était une folie. J'ai trouvé ça inconfortable. Je me sentais plus à l'aise autour des hommes. Ils essayaient de toucher. J'ai trouvé ça waouh. Et moi qui pensais que c'était un pays plein de spiritualité,
oui, oui, c'est ça,
de belles traditions, oui. Et tout. Et on se rend compte que, bon, la spiritualité est à la vente. Et rencontrer plein de prêtres qui ne sont pas des prêtres, des pandites, des fake pandites qui les appellent, parce que c'est ça, la religion est à la vente.
Et vous étiez dans une quête de sagesse pour vous rebâtir, vous refaire un peu, donc
exact.
Vulnérable jusqu'à un certain point.
Oui, oui, oui.
Et là, vous avez rencontré des gens intéressants?
Beaucoup de menteurs. Beaucoup de gens qui racontent presque n'importe quoi juste pour s'asseoir à côté de toi et te parler. Alors, oui, j'ai voyagé, j'ai vu de belles choses, j'ai vu de choses pas belles. Des choses que peut-être... Si quelqu'un commence à parler du Chili et que moi, étant chilienne, je serais peut-être vexée. C'est vrai que si je raconte des choses, les gens indiens ne seraient pas contents. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont là et qui ne sont pas belles. Aussi en Chine, j'ai remarqué qu'ils utilisaient beaucoup les enfants aussi pour demander de l'argent. Alors oui, des choses comme ça, utiliser les enfants, pour moi, bon, c'est pas
vous,
normal.
Est-ce que vous vivez une espèce de désillusion par
oui.
rapport à ce que vous imaginiez, j'imagine?
Complètement, hein? Complètement. Et là, on se dit, bon, est-ce que je suis à la bonne place? Peut-être je devrais aller à cette ville-là et peut-être là, ça va être mieux. Mais quand on marche dans les rues, bon, il y a plein de vagabonds, des gens qui itinérants qui dorment partout, des enfants qui dorment partout. Ça fait peur et beaucoup de peine.
Est-ce que vous rencontrez des gens intéressants tout de même à travers ces déplacements?
J'ai rencontré... une dame, quand j'ai pris le train de Delhi à Agra, une dame qui était très polie, très gentille, elle m'a donné des petits conseils. Faites attention, les hommes ici et là. Faites attention aux enfants aussi, parce que des fois, ils vont vous demander de l'argent, mais peut-être il y a quelqu'un d'autre derrière qui va prendre votre sacoche, ainsi de suite. Alors, oui, c'est là qu'on commence à dire, ah, bon, je vais commencer à cacher mes choses ailleurs. Et c'est ça, être plus...
Vous n'avez pas tombé amoureuse, là, en Inde, me semble-t-il? Me semble que vous m'aviez dit quelque
c'était
chose
c'était pas
comme
mon
ça.
But. J'allais là, justement, pour m'éloigner de tout ça.
Ouais.
Car l'amour, je veux pas dire que l'amour, c'est pas une belle chose, mais l'amour, des fois, nous rend tellement aveugles que d'autres personnes abusent. Et donc, là, je voulais plus. Je voulais plus tomber en amour, ni recommencer une autre histoire d'amour. C'était assez. Je voulais simplement respirer, vivre, peut-être m'installer à quelque part et écrire un livre. Raconter un petit peu des choses que j'avais vécues. Et c'est ça. Je suis arrivée à Udaipur, dans le Rajasthan. Et le lendemain, je suis arrivée très tard, alors j'ai pris n'importe quel hôtel. Le lendemain, je me suis dit, bon, je vais aller chercher quelque chose de mieux. Et en même temps, aller à la gare centrale pour voir quel autre train je peux prendre pour une autre ville, voir quoi d'autre je peux visiter. Et c'est là, en marchant, que j'ai rencontré quelqu'un qui, par la suite, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour que je le trouve intéressant.
C'est la méthode.
Mais oui, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui aurait fait tellement d'efforts pour que je parle avec lui. Mais il était complètement différent que mon ex-mari. C'est vraiment quelqu'un qui ne boit pas, ne fume pas, quelqu'un qui est transparent, qui aime beaucoup danser et qui aime beaucoup sa famille. Contrairement à l'autre personne, bon, qui avait vécu beaucoup de violence dans sa famille, par son père, et puis de l'alcool. Une famille très divisée.
Donc, vous ne vouliez plus connaître d'amour, mais ça flanche un petit peu.
C'est ça. Alors, ça a pris, je pense, 2 mois avant que je le trouve... ça n'a pas été un coup de foudre. C'était plus un ami. Quelqu'un que j'ai trouvé correct. Quelqu'un que je voulais découvrir, connaître un peu mieux.
Vous aviez besoin d'avoir confiance en un homme pour d'abord penser à autre chose éventuellement,
ah,
c'est
oui,
ça?
Oui, oui. Ah. Et puis, il a été très drôle parce qu'il a été tellement honnête avec moi quand je lui ai posé la question « Pourquoi tu n'es pas mariée? » Parce que quand je l'ai rencontré, il avait 34 ans. Et dans l'Inde, 25 ans, je pense que tout le monde est marié. Alors, il m'a dit, non, moi, je ne veux pas me marier à une Indienne. Mais pourquoi? Il me dit qu'il trouve que se marier à une Indienne, c'est se marier à, comment on pourrait dire, a maid, une bonne.
À cause des traditions et des habitudes indiennes, bien sûr.
Alors, j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Il me dit, ben, c'est parce que je suis le plus jeune de 3 garçons et j'ai vu mes 2 frères aînés et je sais c'est quoi.
Et là, ça vous fait flancher?
J'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, ah bon, ben, ce gars-là va jamais se marier, c'est tout.
Ouais.
Et il me dit, mais moi, j'aimerais ça me marier à quelqu'un qui vient d'un autre pays. J'ai dit, mais pourquoi? Il faut que tu restes dans tes traditions. Pourquoi tu veux aller à l'extérieur? Il me dit, ben, c'est parce que j'en ai connu plusieurs femmes d'autres pays qui... bon, c'est intéressant, on peut s'asseoir, on peut discuter de n'importe quoi. Tandis qu'avec les Indiennes, ben, elles sont là juste pour faire des chapatis ou avoir des enfants. C'est pas vraiment une amie. C'est simplement une bonne qui est là. Alors j'ai dit, bon, ben, bonne chance. Et puis, c'est ça, on a commencé à parler. Moi, j'ai commencé à lui raconter mes péripéties avec mon premier époux et puis des choses comme ça, de mes parents, lui, de sa famille. Son papa venait d'avoir un ACV, il était paralysé. Il voulait que je le rencontre et tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'on a développé une amitié. Et par après, c'était quelque chose d'affectueux.
Et ça a duré combien de temps?
On s'est mariés l'année d'après. Mariage traditionnel indien. 6 jours de fête. On a passé à la TV, on a été interviewés, radio et TV, parce que, c'est ça, dans la ville d'Udaipur, j'étais la première non-indienne à se marier traditionnellement.
Mais êtes-vous tombée dans les habitudes indiennes et devenue la femme au foyer, lui faire à manger et tout ça, non?
J'ai... En fait, sa maman, ma belle-mère, un mois avant qu'on se marie, elle dit « Si tu veux te marier à mon fils, il y a deux conditions. » La première était de porter le sari tous les jours. J'ai dit « Ouais, bon, j'ai dit, pourquoi pas, je pourrais l'essayer. Mais il faudrait premièrement me les fournir et deuxièmement me montrer comment, car c'est pas facile. » Et l'autre tradition, en fait c'est très, très traditionnel en Inde, c'est que les garçons ne quittent jamais la maison et l'épouse vient vivre avec sa famille. Ils étaient déjà 12.
Ouais.
Alors, quand j'ai arrivé, bon, aucun moment privé, tout le monde sait tout. Dans une maison où on entend tout. Plein d'enfants qui crient, bon, tout le monde parle une langue que je ne comprends pas. Alors, c'est ça. J'aménage avec la famille.
Et vous faites ça de bon gré, là?
Oui.
Vous n'avez pas de réticence?
Non, non. Je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas. Ils ont l'air corrects, ils ont l'air gentils.
Mais vous ne pensez pas trouver du travail, faire une vie autonome?
Oui, par après. Mais c'est sûr, il fallait vivre avec eux et par la suite apprendre le hindi.
Ce que vous avez fait?
J'ai essayé.
C'est pas facile, ça.
Ben, vous voyez, les premiers jours que j'étais avec la famille de mon mari, j'ai commencé à prendre des cours. Mais sa maman, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas le fait que je sortais de la maison. Alors, mon mari lui a dit, « Mais maman, comment veux-tu qu'elle apprenne? » Elle a dit, « Ben, fais que le prof vienne ici. Elle ne devrait pas sortir. » Et là, j'ai dit, « Quoi? C'est quoi ça? Ne pas sortir. Peut-être elle a oublié que je ne suis pas indienne. Tu devrais peut-être lui dire que je ne suis pas faite pour rester à la maison, que je suis autonome et que, bon, j'ai toujours travaillé. »
Et vous avez pu tenir votre bout et le faire?
Après le 9e jour, j'ai mis mes essentiels dans un petit sac et j'ai demandé à mon mari, « Est-ce que je peux partir avec toi travailler ?» Il m'a dit « Oui, viens avec moi, pourquoi pas ?» Alors, je suis partie avec lui. En fin de journée, quand on s'apprêtait à aller à la maison, je lui ai dit « Voilà ma valise. » J'avais un petit sac avec que mes petits essentiels. Et puis, j'ai dit « Regarde, ça, mais il y avait trop de choses. » J'ai dit « Tes belles-sœurs sont méchantes. Je me sens que je fais partie du livre de Cendrillon. » J'ai deux belles-sœurs qui n'arrêtent pas de m'agacer, de me faire pleurer, d'être vraiment méchante. Au début, il ne m'a pas cru parce que, bon, c'est sûr, il les connaît, ça fait 15 ans, ces femmes-là. Alors, il m'a dit, pour vrai, elles font ça? J'ai dit oui. Et si tu veux, tu peux retourner. Moi, je prends l'avion demain et c'est fini, c'est tout. Sinon, on ne retourne pas à la maison, on va prendre une chambre dans un hôtel et puis c'est correct. Il a appelé maman et lui a dit, bon, regarde, ce soir, on ne sera pas à la maison. Une semaine après, on est retourné et puis... Maman, sa maman, parce que moi j'étais supposée de lui dire maman. Lui il parlait et puis elle n'arrêtait pas de pleurer. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est évident qu'il lui disait, ça y est, on ne retourne plus. Elle a essayé, elle a porté le sari, elle s'est forcée pour venir vivre ici, elle a laissé sa famille et ça ne marche pas. Et donc nous on ne revient plus. Alors, on allait souper 2-3 jours. Et puis, un mois après, à peu près, l'aîné, le plus vieux, qui est, dans un sens, dans leur culture, le plus fort de la famille quand que papa est malade. C'est lui qui prend en charge la famille. Il est venu voir mon mari et moi, et il a parlé avec ses parents. Et il a dit, regardez, parce que mon mari, par après, il m'a tout traduit, il a dit, regardez, cette fille-là, elle vient de loin. Elle a quitté sa famille, son emploi, sa profession. Elle met sa tous les jours. Elle touche nos pieds tous les jours quand elle vient venir nous dire bonjour. Elle cuisine, elle a appris à cuisiner. Elle ne travaille pas. Et tout ce que vous faites, c'est la critiquer. Et à un moment donné, il n'arrêtait pas de hurler. Parce qu'il savait que c'était aussi son épouse à lui et la belle-sœur de l'autre frère qui ont causé tout ça. Alors, on n'est plus revenus. Et puis, présentement, cette famille-là est en pleine séparation parce que les deux belles-sœurs sont divisées et puis la maison est divisée.
Vous êtes combien de temps là-bas avec lui?
4 ans.
4 ans?
Oui.
Et vous vous séparez pour revenir au Canada?
Non, on est revenus ensemble.
Ah, vous êtes revenus ensemble. Oui. Êtes-vous encore ensemble?
Oui.
Ah bon, je ne savais pas.
Oui.
Ah ben
ça
tant mieux.
Ça fait 8 ans qu'on est mariés.
L'histoire finit bien alors.
Oui, 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 oui.
Et vous êtes devenue une bonne cuisinière de cuisine indienne?
Il me dit que oui. Mais lui, il n'est pas exigeant. Il est très calme. Il est très patient. Il a déjà retourné 2 fois en Inde. Et puis, il se rend compte que sa famille est brisée.
Et Ingrid, quand vous faites le bilan de tous ces changements, on part du Chili, on vient ici, c'est difficile, etc. Puis bon, le mariage ici qui ne fonctionne pas, pas facile non plus en Inde. Comment ça se passe? Vous êtes heureuse maintenant? Tout ça s'est tassé, c'est calme ou il y a encore des grandes interrogations chez vous?
Pas d'interrogation, non. Non, je pense que quand on a quelqu'un de stable qui nous accompagne, quelqu'un qui ne cause aucun problème ni de trouble, on est calme aussi.
Je vais vous poser une dernière question. On n'ira pas dans les détails. Vous travaillez dans le monde des pompes funèbres maintenant.
Oui.
Est-ce que cette fréquentation quotidienne de la mort vous apporte quelque chose philosophiquement dans votre réflexion personnelle?
Moi, personnellement, je pense qu'on est ici pour apprendre. Chaque personne apprend à sa façon. Il y a des gens qui n'apprennent jamais et donc vont revivre probablement la même leçon plusieurs fois. Il y a des gens qui croient à la réincarnation. Il y a des gens qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie à vivre et donc il faut s'éclater. J'ai déjà vu beaucoup, beaucoup de fantômes et d'esprits à travers le monde, je vous dis, en Inde, au Chili, ici plusieurs fois même. Qui a la raison? Je ne sais pas. Mais pour moi, être en paix, c'est le bonheur. Être en santé, c'est le bonheur. L'argent n'est pas le bonheur. Je pense qu'une fois qu'on arrive à dire que la jalousie et toutes les cochonneries, les émotions qui vont nous rendre fous ou folles, c'est là qu'on a le bonheur. Quand que les émotions ne nous contrôlent plus, c'est là qu'on atteint le bonheur. Et ça, c'est pas jamais lié à une religion, ni culture, ni où on est passé. Le bonheur, c'est quand que on arrive à traverser toutes les émotions qui nous ont trahis pendant des années, qui nous ont contrôlés pendant des années, et c'est là le bonheur. Il n'y a plus rien qui va nous causer de la peine. Perdre quelqu'un, la mort, oui, c'est difficile. Mais vivre aussi, c'est difficile.
À la semaine prochaine, pour une autre aventure. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.